Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les Amis d'Orwell et aujourd'hui on reçoit Sarah du réseau Université Sans Frontières.
Vous écoutiez Rostropovitch et vous êtes sur Radio Libertaire.
Donc on est avec Sarah du réseau Université Sans Frontières, avec Jean-Pierre, Bénédicte à la technique. Donc Sarah, peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est que ce réseau Université Sans Frontières, que tu appelles donc RUSF.
D'accord, donc moi je fais partie du réseau Université Sans Frontières de l'Université Paris 8. Donc c'est une structure qui a été créée il y a environ 2 ou 3 ans. Donc en fait, pour remonter un peu à l'origine de cette structure, en 2004, il y a eu la création du réseau Éducation Sans Frontières. Et donc en 2006, sur le modèle de ce réseau-là, ont été créés dans plusieurs facs. Donc que ça soit en Île-de-France ou en province, donc ont été créés sur plusieurs facs ce qu'on appelle le réseau Université Sans Frontières. Donc nous à Paris 8 on a un réseau comme ça, donc qui regroupe différentes organisations universitaires. On a des syndicats étudiants, on a des associations d'étudiants, des étudiants non organisés, des professeurs, les personnes habilitées aussi peuvent y être membres. Donc, cette structure-là a différentes revendications, dont les principales sont qu'une carte d'étudiant donne droit à une carte de séjour. Nous demandons également l'arrêt des expulsions des étrangers, que aussi les préfectures arrêtent de contrôler les parcours universitaires des étudiants étrangers. On exige également la régularisation des étudiants sans papier, la régularisation globale de tous les sans papier. Donc voilà, et on fait pas mal d'actions dans le sens de ces revendications-là. Donc il nous arrive de faire des manifestations jusqu'au niveau de la sous-préfecture de Saint-Denis. Nous organisons des réunions publiques. Le but de ces réunions publiques-là, c'est de rencontrer des étudiants étrangers, leur parler un peu des objectifs de ce réseau-là. En plus, c'est un moyen pour eux de ne plus être isolés. Donc nous, on les reçoit le plus souvent lors de nos permanences, où on leur explique le fonctionnement de l'université. On les aide également à constituer des dossiers de demande de régularisation. On les accompagne en préfecture si besoin. Et puis voilà.
Et vous êtes combien alors, que ce soit à Saint-Denis ou en France, ça regroupe combien de personnes à peu près ce réseau ?
En fait, après l'appel de 2006, le principe c'était que dans chaque fac se crée une structure comme ça. Donc il y en a pas mal en France. En Île-de-France, je peux citer le RSF de Paris 10, Paris 3, Paris 5, Marne-la-Vallée, etc. En province aussi, il y en a pas mal, Marseille, Aix-Marseille, Franche-Comté, etc. Bon, il y en a pas mal globalement, enfin nationalement, quoi.
Et il y a beaucoup d'étudiants sans papier
Oui, il y a beaucoup d'étudiants sans papier. Enfin, disons que quand on parle de gestion, de contrôle des flux migratoires et d'immigration choisie, ça touche également les étudiants étrangers. Et du coup, avec ces politiques d'immigration choisie, comme le dit Sarkozy. Donc, depuis le durcissement, notamment des lois migratoires en juillet 2006, il y a énormément de sans-papiers chaque année, d'étudiants sans-papiers. Donc, en général, ce sont des étudiants avec un titre de séjour précaire d'un an. Et vu que c'est un an renouvelable, chaque année, donc la machine à fabriquer des sans-papiers fournit un nombre assez important d'étudiants sans-papiers. Donc, c'est pas que les travailleurs ou les pères de famille sans-papiers qui sont concernés, mais on parle pas souvent des étudiants, mais il y en a pas mal qui vraiment subissent cette politique choisie de ce gouvernement de droite.
Et est-ce que vous avez des liens avec les travailleurs sans papiers? Est-ce que vous faites des actions communes?
Si. Parce que nous, les luttes qu'on mène à la fac ne sont pas déconnectées des luttes qu'il y a, par exemple, dans le monde du travail. Donc, en 2008, il y a eu les grèves de travailleurs sans papiers. Donc, nous, on a fait pas mal d'actions, notamment, on est passé sur les piquets de grève. Leur montrer notre soutien. Et également, en octobre 2009, il y a eu l'acte 2 des mouvements de travailleurs sans papiers. Les grévistes sans papiers sont passés à la fac. On les invite dans les tables qu'on fait régulièrement au niveau de la fac. On les invite également dans nos réunions publiques. Donc, dernièrement, on a organisé une réunion publique le 11 mai dernier, donc mardi dernier, où on a invité des travailleurs sans papiers. Et je tiens également à signaler qu'on avait invité aussi des travailleurs sans papiers qui n'ont pas pu se mettre aussi sur le devant de la scène comme les travailleurs sans papiers, parce que la plupart des femmes sans papiers travaillent dans l'aide à la personne. Et donc, avec le moins d'action de la grève, elles n'ont pas pu se mettre en visibilité. Donc, mais n'empêche, elles sont pugnaces, elles continuent à aller dans les manifs, à faire des réunions militantes. Et nous, ça a été avec plaisir qu'on les avait accueillis au sein de la fac pour qu'elles puissent aussi parler de leur lutte.
Et alors, il y a une proportion à peu près égale de professeurs et d'étudiants parce que ça, je ne sais pas si c'est toujours très courant.
Non, les étudiants sont plus investis que les professeurs. Et concernant aussi les professeurs, disons que les professeurs en sociologie sont plus présents que les professeurs des autres départements.
Il y a des filières comme ça.
Voilà. En sociologie, ils sont aussi en sciences politiques.
Parce que c'est à Saint-Denis, quand même, Paris 8 Saint-Denis, c'est quand même une faculté qui est réputée pour son côté très militant. Enfin, en tout cas, c'est la fac de Vincennes.
Voilà. Oui. Alors, concrètement, dans les réunions, on les voit pas. On voit plus d'étudiants que de professeurs, mais n'empêche, quand il y a par exemple des actions, des manifestations, par exemple en novembre dernier, il y a eu des professeurs qui étaient présents. Donc régulièrement, on voit plus dans les permanences les étudiants, dans les réunions régulières les étudiants, mais dans des actions, dans nos actions, on les voit les professeurs. Et également, il y a quelque chose d'important qu'on fait chaque année, ça s'appelle, on l'appelle les parrainages solidaires. C'est en fait, on organise une rencontre entre les étudiants sans papier et les membres du réseau. Et en fait, le principe, c'est que qu'un étudiant étranger et deux référents, et un professeur ou un personnel biatos et un étudiant. Donc, le but, c'est qu'il y ait une continuité des liens qu'on a avec l'étudiant étranger pendant les vacances. Les grandes vacances quoi, d'été. Parce qu'en fait, la machine à expulser, elle ne prend pas de vacances. Et du coup, à la fin de l'année universitaire, donc il n'y a plus personne à l'université, mais quand même, avec les parrainages solidaires, nous, on continue à garder les liens avec les étudiants sans papier. Comme ça, en cas de problème, en cas d'arrestation, etc., l'étudiant peut contacter ses deux référents. Donc, on organise ça dans le cadre de ce qu'on appelle les parrainages solidaires.
Vous avez souvent des cas d'expulsion
On en a eu en 2008, je pense, oui.
Donc, vous avez des personnes à soutenir aussi, comme le réseau Parce que tu nous faisais part en fait, des liens qu'il y avait entre le réseau Éducation sans frontières. Enfin, il y a pas mal de liens entre vous, c'est ça, avec le réseau Université sans frontières?
Oui. Alors, entre nous, il y a pas mal de liens. Donc auparavant, les liens, enfin, il y avait plus des liens sur le net, disons, à travers les listes de diffusion. Mais depuis février dernier, en tout cas, le RSF Paris 8 avec le RSF de Paris 10 essaie d'organiser, de mettre en place un réseau Université sans frontières francilien. Donc le but, c'est d'organiser une coordination interfac donc sur, enfin, autour de plusieurs revendications, notamment une qu'on a choisi de mettre en premier plan pour les premières actions de ce réseau en train de se construire. Donc là actuellement, on a fait des actions autour de la revendication comme quoi les universités doivent arrêter de contrôler le titre de séjour lors des inscriptions. Donc, dans certaines facultés, on exige le titre de séjour alors qu'il n'y a aucun texte, aucune loi, aucune circulaire qui pousse ces facs à demander le titre de séjour parmi les pièces à fournir lors de l'inscription. Donc d'ailleurs, Pécresse, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, l'a signalé. Il n'y a pas très longtemps, mot pour mot, il a dit le titre de séjour ne fait pas partie des pièces nécessaires à l'inscription d'un étudiant étranger. Donc nous, on ne voit pas pourquoi certaines facs continuent cette pratique illégale. Et donc du coup, pour construire un peu ce réseau francilien, on s'est un peu centré, disons, sur cette revendication-là. Et on a organisé un premier rassemblement à Paris 10, où on a rencontré le vice-président du CEVU qui s'est engagé à ce qu'il y ait un arrêt.
C'est quoi le CEVU ?
J'ai oublié le de la vie étudiante.
D'accord.
Il y a beaucoup de facs qui pratiquent ces.
Il y en a pas mal. Donc. Il y a Paris 10, même malgré une motion qui existe, qui interdit ce type de contrôle-là. Paris 10.
Nanterre.
Et à part Paris 10, il y a Paris 13 également, donc, où on recale systématiquement l'étudiant sans papier. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, quand l'étudiant sans papier est recalé au niveau de ces facs-là, ces facs-là lui demandent un titre de séjour. Et quand il part au niveau de la préfecture demander un titre de séjour, on lui demande une carte d'étudiant. Donc, voilà, parce qu'il faut une carte d'étudiant pour avoir un titre de séjour, et il faut un titre de séjour pour avoir une carte d'étudiant. Donc, du coup, le truc un peu débile des fois. Nous, on continue à pousser ces facs-là à inscrire les étudiants sans papier et à arrêter cette pratique illégale. En même temps, ça nous permet de rencontrer les autres RSF. Ou sinon, s'il y a des facs où il n'y a pas de RSF, de rencontrer des organes universitaires et en même temps les pousser à construire un RSF, qui est un cadre unitaire, hétérogène et un peu inédit, parce qu'on n'est pas obligé de prendre une carte pour faire partie du RSF.
Et vous avez beaucoup de monde quand vous faites une réunion publique comme tu disais tout à l'heure, entre travailleurs sans papier, étudiants sans papier, il y a du monde qui vient ?
Il y a du monde des fois qui vient. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a plus d'étudiants organisés qui vont dans ces réunions publiques-là. Et donc, voilà. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend. Dernièrement, on avait comme intervenant Eric Fassin. Et le rappeur engagé du MAP.
Ministère des Affaires Populaires.
Voilà, ministère des Affaires Populaires. Donc, il venait de Lille. Donc, il y a eu du monde, mais plus d'étudiants organisés.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'ensuite on reprenne plus particulièrement sur le contrôle des sans-papiers, puisque c'est l'objet de notre émission.
On va écouter Des Armes de Noirdez.
Thank you. faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Des
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire avec les Amis d'Orwell et on est avec Sarah du réseau Université Sans Frontières pour parler du contrôle des sans-papiers. Donc Sarah, tu nous disais tout à l'heure que le contrôle, il commence dès le pays d'origine.
Ah oui, tout à fait. Alors, disons que s'il y a un étudiant candidat à l'immigration en France, enfin en France parce que, voilà, disons un étudiant sénégalais, parce que je suis sénégalaise, étudiante étrangère sénégalaise. Donc, disons, pourquoi la France, pourquoi un étudiant étranger choisirait la France? Parce qu'il y a des liens historiques, parce qu'au niveau du Sénégal, on continue à parler le français à l'école, c'est la langue officielle de toute façon. Donc, aussi, également, enfin, oui, pas mal d'étudiants aussi choisissent comme pays d'accueil le pays où se trouvent quelques membres de leur famille. Donc, voilà. Donc, un étudiant, disons sénégalais, qui choisit de venir en France. Donc, c'est un vrai parcours du combattant. Alors, il faut d'abord trouver une préinscription dans une fac ici en France. Et pour ça, depuis 2006, on impose dans les pays d'origine des structures qu'on appelle Campus France ou Centre d'études en France. Donc, ce truc-là, je vais en parler un peu, c'est très intéressant. Il y en a qui en parlent en disant que c'est de véritables préfectures délocalisées. C'est intéressant parce qu'en fait, ces structures-là font un tri des candidats à l'immigration. Donc, comment se passe le tri ? Alors, on demande donc la préinscription, que l'étudiant fasse une préinscription dans une fac. Une fois que l'étudiant reçoit un avis favorable de la fac, bah, ça ne résout pas le problème. Enfin, l'étudiant n'a pas automatiquement un visa pour venir. Qu'est-ce que font ces structures-là? Bah, elles demandent qu'il y ait un contrôle du niveau de français de l'étudiant. Elles demandent également que 5000 euros soient bloqués dans un compte bancaire pour l'étudiant, bah, si l'étudiant obtient le visa. Donc, 5000 euros demandés à un étudiant en Afrique, 5000 euros, si tu convertis ça, ça donne vers les 3 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout le monde qui peut fournir 3 millions de francs CFA. Donc, du coup, là, on voit à quelle classe sociale s'adresse ce... On prend que ceux qui ont une... Enfin, les fils de bourse, pour aller plus rapidement. Et donc, du coup, il y a ce critère-là de, des ressources. Il y a également que le visa est payant, 45 euros. Après, ça dépend des pays. Et que aussi, il faudra ouvrir un compte sur Internet qui est payant également. En fait, c'est des étapes où l'étudiant est obligé, enfin, le candidat à l'immigration est obligé de payer. Et au total, il paye 130 euros, je pense, pour son dossier, la constitution du dossier. Et sachant que si l'étudiant ou le candidat n'a pas de réponse favorable de ces structures-là, bah, il n'est pas remboursé. Et 130 euros, c'est pas rien, quoi, quand tu convertis ça en franc CFA. Donc, une fois que l'étudiant réussit à passer cette étape-là, du tri qui se fait au niveau du pays d'accueil, bah, dès qu'il arrive ici, bah, c'est pas la fin du parcours du combattant. Ça continue. Ça continue, pourquoi ? Parce qu'on demande à cet étudiant-là d'être excellent, d'avoir de bonnes notes et de valider chaque fois son année. Parce que la préfecture surveille le déroulement des études de chaque étudiant étranger. C'est-à-dire, quand tu arrives ici, tu as, en tant qu'étranger, étudiant étranger, un titre de séjour d'une année. Donc, une titre de séjour annuel. Et ce qui fait que chaque année, tu risques d'être sans papier. Donc, en parlant de ça, moi, je peux prendre mon cas. Donc, moi, je n'ai pas connu tout ce qui est Campus France, Centre d'études en France. Mais bon, là,
ça, c'est depuis 2006 que ça existe.
C'est depuis 2006. Moi, je pense que c'est dans le cadre de la loi du 24 juillet 2006, quand Sarkozy a commencé à parler d'immigration.
Et les 5000 euros, c'est depuis 2006 qu'on demande
Oui, oui. Compte bloqué, quoi. 5000 euros bloqués dans un compte. Ça, on ne me l'a pas demandé, moi. Voilà. Et donc, du coup, bon, en arrivant ici... on m'a un peu parlé du titre de séjour parce qu'une fois au bled, on ne te parle pas de ça. C'est une fois que tu arrives ici qu'on t'en parle, que ce soit au niveau de la famille, au sein de la fac. Donc, le premier titre de séjour obtenu, on te dit que c'est seulement un an et c'est renouvelable et que c'est la préfecture qui impose des critères de ressources financières. Enfin, il y a telle somme d'argent à avoir chaque année sur son compte.
Encore,
parce que la préfecture, au moment du renouvellement, vérifie tes relevés bancaires, une intrusion dans la vie privée de l'étudiant. Donc, en dehors de ça, également, l'autre intrusion que je supporte le moins, c'est quand la préfecture demande les relevés de notes de l'étudiant étranger. C'est-à-dire, tu dois avoir de bonnes notes et... comme un gamin, tu dois aller vers la préfecture avec tes relevés bancaires, tes relevés de notes, tout, montrer à la préfecture en disant, vous voyez comment j'ai bien travaillé. Alors que voilà, la vie d'un étudiant étranger, c'est pas facile. Disons que on n'a pas accès aux aides sociales. Parfois, on a accès aux aides d'urgence, mais ça le fait pas trop. Et du coup, on est obligé de travailler. Là également aussi, quand on travaille, on est sous contrôle. On nous autorise à travailler que 21 heures par semaine. Et si on dépasse ces 21 heures-là, on risque de ne pas être renouvelé, de ne pas avoir un titre de séjour.
Aucune aide sur le logement sur...
Non, pas sur le logement. Donc, et également, on a du mal à avoir en tant qu'étranger.
Il n'y a pas les allocations
Une fois qu'on a accès au logement, on peut avoir accès à l'APL. Mais le truc, c'est trouver le logement. Tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, tu dois trouver un logement, tu dois trouver du travail parce que tu n'as pas assez de ressources et que la préfecture va vérifier tes ressources. Tu dois aussi bien travailler, avoir de bonnes notes parce que la préfecture va vérifier tes notes. Du coup, avec toute cette pression-là, tu ne passes pas ton année dans de bonnes conditions. Donc, tu es sous pression. Et donc, au moment du renouvellement, enfin, même pas avant le moment du renouvellement, au moment des examens, tu dis la préfecture va voir après. Si tu réussis pas, il y aura sanction.
Et alors, est-ce que tu as la deuxième chance, tu l'as toi aussi en septembre, je veux dire...
Oui, les rattrapages.
Oui, les rattrapages, oui. Ça pose pas de problème que t'es...
Ça pose pas. Ouais. Non, heureusement, c'est au niveau des facs, ça. C'est pas... Ouais. Pour les préfectures, il n'y a pas de rattrapage.
Ils attendent le mois de septembre pour demander.
Oui, alors, ça dépend de. Comment dire. Par exemple, moi, mon titre de séjour expire au mois d'octobre.
D'accord.
Donc, normalement, je dois valider l'année et tout. J'aurai les résultats de septembre, etc. pour pouvoir renouveler. Voilà. Donc, l'avis d'un étudiant étranger, c'est pas facile du tout, avec toute la pression qu'on a. Donc, histoire de trouver un logement, du travail, et dans ces conditions-là, valider son année, bah, c'est pas facile, mais la préfecture s'en moque. C'est genre, apporte-moi tes relevés de. Tes relevés bancaires, je vérifie si tu as des ressources suffisantes chaque mois. Apporte-moi tes relevés de notes pour que je vérifie tes notes. Et parce que ici, les préfectures se donnent le droit de juger de la réalité et du sérieux des études. C'est écrit comme ça dans les circulaires.
Même donc, quand ça fait longtemps que tu es sur.
Ah oui. Enfin, moi, ça va faire 6 ans que je suis en France. Et chaque année, la préfecture du 94 vérifie la réalité et le sérieux de mes études. Et chaque année, j'ai un titre de séjour d'un an. Et moi, je suis considérée comme une migrante temporaire. Enfin, voilà, sur mon titre de séjour, j'ai écrit temporaire. Mais 6 années de ma vie, c'est pas du temporaire, ça. Et puis voilà. Donc, chaque année, je vais à la préfecture avec les mêmes pièces. Avec les mêmes pièces depuis que je suis arrivée, hein. Voilà. Après, au niveau du guichet, c'est autre chose parce qu'on est souvent reçu d'une manière très désagréable. Après, une queue de 4 heures, voire plus. Donc voilà, on est surveillé constamment chaque année. C'est pour ça que moi, j'utilise souvent l'expression « sans papier potentiel » en disant que ouais, je suis étudiante étrangère, je suis sans papier potentiel parce que qu'à chaque renouvellement, je risque d'être de l'autre côté, quoi, d'être carrément sans papier. Donc ça dépend du bon vouloir du préfet parce que tout ce qui est droit des étrangers, que ce soit étudiant aussi et travailleurs sans papier, enfin oui. Donc tout ce qui est droit des étrangers, en général, c'est un arbitraire fou qui est autour. Tout dépend de la préfecture. Mais c'est là où voilà, ils ont vraiment un outil de contrôle par rapport à nous. C'est voilà, j'ai envie de te renouveler, je te renouvelle, j'ai pas envie de te renouveler. Parce qu'il arrive qu'on dépose un bon dossier. Mais là, j'ai pas eu le cas d'un étudiant, mais de travailleurs sans papier. Il arrive que les travailleurs sans papier aient un bon dossier et que la préfecture décide de pas renouveler.
Et donc, autrement, toi, tu es donc étudiante dans le 93 et c'est lié à ton lieu de logement, le fait que tu dépendes de la préfecture de 94. Oui.
Ouais. Voilà.
D'accord. Et tu nous disais aussi en antenne que même si tu as ton diplôme, tu arrives à faire tes études, alors explique-nous un petit peu ce qui se passe après. Même si tu as réussi justement avec autant d'excellence à avoir ton diplôme, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Oui, alors il arrive à un moment, par exemple après la thèse, que l'étudiant étranger veuille rester en France travailler. Donc même avec ils demandent en général le CDI, même avec un CDI, bah t'es pas sûr d'avoir un changement de statut. Il faut le changement de statut pour être reconnu comme salarié, puis avoir un autre type de titre de séjour qui va te donner droit à une carte de résident. Donc le changement de statut, ça c'est pas comme ça, quoi. Enfin, tu peux faire la demande, mais il y a peu qui réussissent à l'avoir. À moins que tu sois peut-être en médecine ou ingénieur en quelque chose. Parce que nous, étudiants en sciences sociales, sciences humaines et sociales, on n'a pas trop de chance de. Par exemple, moi, je n'ai pas fini, mais voilà, imaginons que je termine et tout, mais je pense même pas déposer parce que j'ai vu des cas d'étudiants, déjà deux cas d'étudiants en sciences humaines et sociales, qui ont déposé pour un changement de statut, qui avaient un dossier béton. Mais voilà, on n'a pas besoin de nous. Et vu qu'on est dans une immigration choisie, donc nous, on ne serait pas choisis. Et le signal, on le voit déjà. Et donc voilà.
Et vous n'avez pas le redoublement alors donc...
Ah, mais non. Enfin, ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont fait par, comment dire, par exemple pour la licence, tu as droit à 2 redoublements. Alors pour les masters, je ne sais pas trop, mais en fait c'est quand tu arrives et qu'on te parle de ce jour, tu te demandes mais combien de redoublements j'ai droit. Parce que nous, on n'est pas comme les étudiants français. nous, on nous demande d'être excellents. Donc, du coup, c'est pour ça que le réseau universitaire demande qu'il y ait une égalité de droit entre étudiants. Même étude, même droit. Voilà. Et donc, moi, je me suis renseignée par rapport à la licence parce que je venais d'arriver et qu'on m'a parlé de la préfecture. Donc, j'avais droit à 2 redoublements. Bon, je n'ai pas redoublé, c'est bon. Mais aussi en master, je pense, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être 1. Donc, tu redoubles une fois, deux fois. Mais après, la troisième fois, tu es sanctionné automatiquement. Tu peux redoubler une fois. Moi, j'ai assisté à cette scène-là avec ma cousine hein, qui avait redoublé une fois. Et qui avait changé de filière. Et la dame à la guichet lui a dit bah, c'est le changement de filière, c'est en fait, c'est considéré comme un redoublement. Alors que non, enfin, elle n'a pas redoublé, elle a juste changé de filière. Parce qu'on n'a pas également aussi le droit de changer des filières comme ça. Donc nous, on ne redouble pas, on ne change pas de filière comme on voudrait. On est obligé de valider, tout en valider, ça fout une pression énorme aussi.
Ça crée une cassure avec les étudiants français ou c'est
une cassure du genre
d'être beaucoup plus sous pression qu'eux. Quels sont les rapports en fait
avec les étudiants français, ça se passe bien. Enfin, mais ils sont surpris de nous voir travailler. Enfin, pour ceux qui savent pas, de nous voir constamment, par exemple, à la préfecture ou en train de parler de validation, etc. Bah, ils ont eux, enfin peut-être d'autres préoccupations. Enfin, oui, valider, mais il y a pas que valider dans les études. Enfin, il y a ce que tu apprends, etc. Mais nous, au moment quand la période des examens approche, on n'utilise que le terme valider, ou préfecture. Et aussi, l'angoisse monte quand c'est vraiment le moment de renouveler le titre de séjour. Donc, même avec de bonnes notes, quand tu pars à la préfecture, bah, tu dis bah, ils vont me trouver quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, juste pour soit me casser les pieds, soit... Histoire juste de te montrer que t'es un étranger et que bah, le pouvoir, c'est eux qui l'ont. Et que voilà. Enfin, y a une différence, en tout cas, entre étudiants français et étrangers. Mais entre nous, on s'entend très bien.
On va faire une petite pause musicale.
Alors, on va écouter quelqu'un qui s'appelle Ernst Reichsäger, j'ai du mal à le dire, qui fait du violoncelle et qui est terrible. Thank you.
Vous êtes toujours avec les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. On est avec Sarah du réseau Université Sans Frontières. Donc on est en train de parler du contrôle des sans-papiers. Et je me posais une question, notamment sur l'accès à la carte de séjour, parce qu'il me semblait que quand on était en France depuis 10 ans, on avait cette possibilité d'obtenir une carte de séjour. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui.
Alors, depuis la loi du 24 juillet 2006, il y a de moins en moins, enfin, disons que ça a été éliminé. En fait, ça, après 10 ans de présence, le sans-papier pouvait prétendre à une régularisation. Et depuis 2006, ce n'est plus le cas.
Parce que moi, je pensais à un étudiant qui va jusqu'à la thèse, il peut faire 10 ans d'études. Enfin, j'imagine, ça peut être le cas. Est-ce que là, du coup...
Papier. 10 ans en étant sans papier.
Mais autrement, avec une carte annuelle renouvelée pendant 10 ans, c'est pas possible.
En fait, la régularisation, c'est pour le sans papier. Et pour la personne qui D'accord. a chaque année un titre de séjour, c'est un changement de statut qu'il faudra demander.
Donc c'est pas...
Et donc, auparavant, il y avait la possibilité d'être régularisé après 10 ans de présence en France. Mais avec la loi Sarkozy de 2006, ça devient impossible d'avoir cette régularisation, disons plus ou moins automatique avant. Donc cette loi s'est pas mal accompagnée de... Enfin, ça a été une constitution de mesures qui ont fermé un peu complètement les perspectives de régularisation. Ça a durci les mesures de regroupement familial. Ça a durci pas mal de choses. Donc, du coup, le but de cette loi, ça a été de dire, on va remettre l'immigration du travail au premier plan et que, l'immigration familiale rime avec immigration subie. Donc, je pense que vous vous rappelez un peu de cette période-là. Donc, depuis, on a, mais ça, faudrait le signaler également, c'est pas venu dans n'importe quel contexte. Donc, contexte de mondialisation, mise en place de politiques néolibérales un peu partout, une compétition économique internationale très intense, etc. Du coup, dans pas mal de pays, mise en place de politiques migratoires utilitaristes. Et donc, que ce soit en France ou l'Union européenne, au niveau européen, il y a eu des directives, des mesures dans le sens de politique migratoire utilitariste. En France également, ça a commencé depuis 2003, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur. En parlant de ça, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait commencé aussi à signer des accords de réadmission dans des pays africains, même pas africains, dans des pays du Sud. Pas seulement africain. Donc, les accords de réadmission, c'est quoi ? C'est des accords dans lesquels... C'est des accords léonins. C'est des accords qui permettent à la France de pouvoir expulser très facilement les sans-papiers. Donc, avec le Sénégal, ça a commencé avec le Sénégal en septembre 2006. Donc, Sarkozy est allé pour signer un accord de réadmission. Donc, en échange de quelques visas... le Sénégal doit faciliter l'expulsion des sans-papiers. Comment ? en poussant son consulat, qui est ici en France, à délivrer très facilement les laissez-passer d'expulsion. Donc voilà. Donc on chope un Sénégalais sans papier, centre de rétention, puis consulat, et le consul très rapidement délivre le laissez-passer d'expulsion, et il est expulsé très rapidement, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien du tout. Et voilà, un sans-papiers expulsé après des années de cotisation, parce que les sans-papiers cotisent, et c'est pas un truc nouveau. Ça fait des années, parce que les sans-papiers, en général, sont embauchés légalement. Donc ils sont embauchés légalement, ils cotisent comme tout salarié ici en France, ils payent également leurs impôts. Et en fait, après des années de cotisation, quand ils sont chopés comme ça dans la rue après un contrôle au faciès en général, bah, ils sont mis en centre de rétention, amenés au consulat et expulsés très rapidement. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense à une campagne qui a été menée contre ce genre de pratiques. Donc, contre le racket sur les cotisations des travailleurs sans papier. Voilà, ils cotisent et en échange, ils ont droit à aucune indemnité, par exemple, quand ils sont malades ou quand ils sont au chômage.
Il y a eu plusieurs actions là, sur ce racket, hein, je crois.
Oui,
c'est
depuis un an que cette campagne a commencé. Il y a eu plusieurs actions. Ça a commencé au niveau des consulats, qui ont signé justement cet accord de réadmission. Donc le but, c'était de leur dire d'arrêter de les délivrer, parce qu'en les délivrant, ils se rendaient complices du racket de leurs propres compatriotes. Donc les organisateurs de cette campagne ont eu pas mal d'engagement au niveau des consulats où ils ont été. Donc ils ont été dans, je pense, presque 9 consulats de pays qui ont encore une fois signé les accords de réadmission.
Et tu peux rappeler ces accords-là, c'est le fait de pouvoir expulser facilement.
Oui, très facilement. Enfin, oui, voilà, rendre l'expulsion du sans-papier super facile pour l'administration française. Ça, c'est l'élément important à noter dans ces accords-là.
Mais comment le consulat peut revenir là-dessus, en fait?
Disons que ceux qui ont expulsé, ils sont déjà expulsés, mais c'est des pays indépendants quand même, ces pays-là. Donc, en disant oui, moi je viens, enfin peut-être qu'il le savait, mais il l'admettait pas. Mais nous, avec les arguments qu'on avait, en disant voilà, vous avez des arguments pour refuser le titre de séjour, utilisez ces arguments-là, vous êtes des pays indépendants. Donc, le consul peut dire, comme le consul, je pense, malien l'a fait, donc il a refusé l'expulsion d'un sans-papier en disant j'ai ces fiches de paye. J'ai ces déclarations d'impôts depuis. Parce que les sans-papiers, ils gardent leurs fiches de paie, ils gardent les impôts. C'est très important pour eux. Donc, le consul dit moi, j'ai des preuves comme quoi ça fait des années qu'ils cotisent et vous ne pouvez pas l'expulser comme ça. Mais bon, ça, c'est pas que le consul du Mali, il y a d'autres consuls comme celui du Burkina aussi, donc qui a également dit que c'est un argument qu'il allait utiliser souvent. Mais bon, il n'y a pas que ces accords-là comme politique d'externalisation du contrôle des migrants. Il y a également les centres de rétention qui existent dans les pays du Sud. Donc, les centres de rétention, ce n'est pas seulement en Europe, mais ils ont imposé, dans les cadres d'accords, ils ont imposé la construction de centres de rétention dans des pays du Sud. En dehors de ça, il y a en fait une mise en place de dispositifs un peu partout. Enfin, nationalement, il y a eu un décret qui est entré en vigueur en juillet 2007. Donc, le décret pousse toujours les employeurs à vérifier l'authenticité du titre de séjour que le postulant étranger présente, que ça soit à l'employeur ou au Pôle emploi. À l'époque, c'était à la NPE. Donc, de cette manière, on filtre un peu les salariés. Et du coup, des sans-papiers ne sont pas pris. Donc, ils sont pas le décret, quand c'est sorti, ça a été appliqué dans pas mal de boîtes et beaucoup de sans-papiers se sont retrouvés licenciés. Et quand ils sont licenciés, même après les années de cotisation, ils ne reçoivent pas d'indemnité. Et ensuite, ça devient difficile pour eux de se faire réembaucher.
Les indemnités chômage, c'est ça?
Oui.
Ah, les...
La CEDIC.
D'accord. Ah, ils ne peuvent pas percevoir les acédiques.
Non, ils ne peuvent rien percevoir.
Parce qu'ils n'ont pas de papier, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Mais donc, les acédiques demandent, ou le Pôle emploi aujourd'hui, donc demandent à vérifier que la personne est bien légalement en France, quoi.
En fait, il y a pas mal d'instances où le titre de séjour est demandé maintenant. Donc,
D'accord. Et je me posais une question aussi, par exemple en tant qu'étudiante, est-ce que donc tu subis fréquemment le contrôle des contrôles de police, et est-ce que tu peux voyager, retourner au Sénégal, enfin comment ça se, t'as une certaine liberté quand même
Oui. Enfin, du moment que j'ai le titre de séjour, même si c'est un an, je me sens à l'abri par rapport à ceux qui n'ont pas ce titre de séjour là. Donc, par exemple, l'étudiant sans papier, il n'est pas tranquille comme moi. Donc, quand il fréquente les grandes gares, il est angoissé. Parce que c'est ces gares-là où, en général, les flics se mettent pour faire leur contrôle au faciès. Également, ce sans papier-là, quand il part de chez lui pour aller à la fac, il n'est pas tranquille. Les contrôles de police, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Donc voilà, moi par rapport à eux, disons que je suis tranquille chaque année. Maintenant, c'est au moment du renouvellement que ça va pas.
D'accord. Et on se posait aussi une question, alors comment on devient étudiant sans papier?
Alors il y a deux choses. Ça concerne presque tous les sans papier. En général, ils arrivent ici avec un visa. Donc, ils arrivent en France légalement. La plupart des sans-papiers arrivent ici légalement. En fait, avec un visa court séjour. Pour les étudiants, pour avoir un titre de séjour ici, il faut avoir, pour les étudiants, un visa long séjour. Un visa, long séjour. Enfin, il n'y a pas une limite. Enfin, il n'y a pas une durée de séjour qui est indiquée sur le visa. Mais avec un visa touristique, c'est limité, en fait. Ça peut durer 3 mois. Et il y a des étudiants, par exemple, qui sont recalés par les Campus France ou par l'ambassade avant, qui utilisent, en tant qu'étudiants, ils sont recalés, ils peuvent utiliser après un visa court séjour, puisque c'est le visa le plus accessible par rapport au visa long séjour. Donc, s'ils arrivent à obtenir le visa court séjour, ils viennent en France et à l'expiration de ce visa-là, ils deviennent sans papier. Donc ça, c'est un premier cas de figure. L'autre, c'est le refus de renouvellement. Donc quand la préfecture refuse de renouveler le titre de séjour, elle fabrique les sans-papiers comme ça. Aussi, sans-papiers, ta question m'amène à un peu parler de l'expression. Sans-papiers, c'est qui? Le sans-papier, c'est celui à qui l'État a refusé les papiers. Donc, c'est une privation dont seul l'État est responsable. Et je pense qu'en mettant en place ce type de pièces, c'est un contrôle que l'État fait au niveau des étrangers, notamment étudiants.
D'accord. Et alors, pour revenir peut-être au réseau Université Sans Frontières, est-ce qu'il y a des actions, des choses qui sont prévues? Enfin, comment...
Alors, donc, dans le cadre de la construction du réseau Université Sans Frontières francilien, qui devrait donner une visibilité régionale aux RUSF, parce que voilà, on parle pas assez des étudiants sans papier et des luttes que nous, on fait au niveau des facs par rapport à ça, aux droits des étudiants étrangers. Donc, on a commencé un premier rassemblement au niveau de Paris 10. Ça va continuer, donc peut-être ça sera à Paris 13, on verra ça en réunion unitaire, mais ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, et ça va reprendre l'année prochaine. Avant ça, on a prévu, mais au niveau national, une réunion l'été prochain, donc histoire de rediscuter de la visibilité du réseau au niveau national, des actions propres du réseau et... comment faire connaître notre lutte et comment être plus près des étudiants étrangers et imposer nos revendications dans la lutte globale des sans-papiers.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective quand on est étudiant en France étranger? Enfin, c'est, j'imagine que ça ne doit pas être évident. On n'a pas un droit à rester en France. C'est, a priori, ce n'est
voilà,
pas du tout...
Bah, vu que chaque année, on t'envoie le signal comme quoi tu n'auras peut-être pas le droit de rester après tes études, bah, tu penses à rentrer. Personnellement, moi, c'est un projet, j'en parle souvent. Mais bon, ce n'est pas tout le monde. Moi, quand je suis venue, également, j'avais dans mon projet migratoire prévu de retourner chez moi. Après, ça dépend des pays d'où l'on vient. Il y a des pays peut-être en guerre, où il y a des pays... on sait qu'ici, le niveau de vie est plus élevé qu'au bled. Et certains ont envie de rester ici. Et moi, je suis pour la totale liberté de circulation. Quand il s'agit des capitaux, youpi et tout, faut que ça passe, pas d'entrave. Mais quand c'est les personnes, non, on sélectionne que les meilleurs, on sélectionne que ceux qu'on peut utiliser, la force du travail qu'on peut utiliser, les cerveaux qu'on peut utiliser. Ça fonctionne comme ça et c'est archi injuste. Et donc, moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation. Ces étudiants-là, ça fait longtemps qu'ils sont plus, nombre d'entre eux, qui sont plus dans le temporaire, dans le provisoire. On doit les laisser s'installer, s'ils le désirent. Enfin, plus tu fermes les frontières, plus tu fixes les gens. Parce que ce qui s'est passé à partir de 1974, donc l'année où les frontières ont été fermées, c'est qu'en fait, les travailleurs, les migrants en général, sont restés sur place. Mais avant, ça bougeait énormément entre leur pays d'origine et le pays d'accueil. Mais une fois que tu fermes les frontières et que tu mets en place pas mal de politiques migratoires dures et répressives, ça fait que les gens qui ont peur de se déplacer et de plus pouvoir revenir. Donc, voilà.
Au niveau des débouchés, quand tu fais des études, c'est pour qu'il y ait un débouché quand même.
Oui.
Donc la plupart, tu penses, ils ont envie de retourner au pays après pour.
Je sais pas si la plupart ont envie de ça, mais moi je rencontre des étudiants qui ont envie de rester ici parce que peut-être ils aiment ce pays, le style de vie, les opportunités qu'il y a ici et qu'il n'y a pas au pays. Je sais pas, plein de choses peuvent faire que l'étudiant décide de rester ici.
On s'en fout.
Mais alors, est-ce que c'est facile de repartir, je sais pas, au Sénégal après avoir vécu je sais pas combien d'années en France? Est-ce qu'on peut facilement s'intégrer sur le marché du travail
au Sénégal? Alors, il y en a qui réussissent à s'intégrer avec un diplôme, c'est un diplôme européen. C'est un diplôme européen. En même temps, ici en France, il y a les infrastructures qui sont très différentes de celles qu'on a au bled. Il y a des spécialisations, des filières très intéressantes qu'on n'a pas au bled. Donc du coup, on sait que quand tu fais des études supérieures ici, t'as bénéficié de plus de choses que les étudiants qui sont restés au pays. Donc il y a peut-être moyen de trouver quelque chose là-bas. Certains ont eu finalement, après des années passées ici, l'habitude du mode de vie d'ici. Ils se sentent bien ici. Ils ont fini par s'installer. De toute façon, quand ils quittent le pays, ils n'ont plus de place au pays. Et quand ils partent en vacances, on les considère comme des invités, donc qui vont repartir. Donc, au bled, on te considère comme faisant partie d'ici. Et ici, on te considère comme étranger provisoire qui va rentrer après ses études. Donc finalement, on est nulle part. On veut bien être au bled, mais bon, on n'y est plus physiquement. Physiquement, on est ici, mais bon, on nous dit provisoire. Dépêchez-vous de partir après vos études. c'est un peu compliqué. Je sais pas si.
Et tu nous disais qu'il y avait des secteurs où, par contre, là, l'État français, il est demandeur, non?
Oui. Disons que, en sciences humaines et sociales, c'est pas. On n'est pas très sollicité. On demande plus de rentrer chez nous que de rester. Mais par contre, si tu es médecin, ingénieur, quelque chose comme ça, dans ces boulots-là, t'es plus sollicité.
L'immigration choisie, comment ?
Très, très choisie.
Bah, merci, Sarah, donc, du réseau Université Sans Frontières.
On va se quitter avec un peu de fado d'une femme qui s'appelle Lucia Do Carmo. Salut.
Entrei na vida a cantar o fado que a própria vida nos ensinou ao nascer. É tarde para mudar e não estou arrependida por ao fado pertencer. Quando se canta tudo aquilo que se sente, vai-se a alma na garganta no dizer da nossa gente. Mágoas e risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado por tradição. Ser destino da gente nascida aqui, neste canto junto ao mar, voz do meu país menino, o fado que eu aprendi, entrei na vida a cantar. Quando se canta tudo aquilo que se sente, vai-se alma na garganta no dizer da nossa gente. Mágoas e risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado por tradição. Mágoas e risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado por tradição. Partiste, tudo na vida tem fim. Sempre disse cá para mim que isto iria acontecer. Partiste, mas a culpa não foi minha, foi da vida que caminha muito depressa a correr. Partiste, foi se o amor, veio a amizade. Esta nova realidade não quiseste compreender. Agora prefiro ser a ternura que estando só é mais pura, que estando triste não chora. Sem ti é mais fácil eu saber que a vida está por viver e que ainda não morri. Partiste para longe da minha vista, pode ser que assim resista à tentação de te ver. Partiste, continua sempre em frente e não voltes de repente, que te vais arrepender. Partiste, por favor não voltes mais, mas não digas para onde vais se não queres que eu vá lá ter. Estando triste não chora. Sem ti é mais fácil eu saber
que a vida está por viver e que ainda não morri. Mas não digas para onde vais, se não queres que eu vá lá ter.